Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. L'exécutif face à un choix compliqué, renforcer les restrictions avec un couvre-feu généralisé à 18h pour prévenir la propagation du variant anglais, ou bien en rester là puisque les fêtes de fin d'année n'ont pas provoqué de nouvelles flambées. Une certitude, les écoles resteront ouvertes, mais avec des précautions renforcées et une campagne de dépistage jusqu'à 1 million de tests chaque mois auprès des enfants et des enseignants. Au sommaire également, un vaste trafic d'armes démantelé par la PJ parisienne, 2 soldats parmi les suspects. À Grenoble, la mairie ferme une crèche sous la pression des dealers d'un quartier populaire. Renault présente son nouveau plan stratégique, Renaultution, et sa future R5 électrique. Invité d'Europe Midi, Alain Duhamel pour un nouveau livre sur le phénomène Macron, Emmanuel Le Hardy aux éditions de l'Observatoire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le couvre-feu à 18h déjà en vigueur sur un quart du pays sera-t-il étendu à d'autres départements, voire à l'ensemble du territoire? Réponse ce soir à 18h dans la bouche de Jean Castex. L'arbitrage peut changer jusqu'au dernier moment, d'autant que des inconnus ne cessent de s'ajouter à une crise de plus en plus complexe et difficile à appréhender. L'inconnu dans l'inconnu, c'est la dissémination du variant anglais. Mais la quasi-certitude désormais, Victor Dolande, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet majeur sur l'épidémie du réveillon du 31.
Oui, pas d'explosion des contaminations pour la Saint-Sylvestre, c'est une première certitude. Les Français se sont bien comportés pendant les fêtes, disait encore hier matin sur Europe 1 l'infectiologue Yazdan Panam, membre du conseil scientifique. Pas d'explosion, voilà pour l'unique bonne nouvelle, car pour le reste, les chiffres ne sont pas bons. La courbe des nouvelles contaminations est en croissance, près de 20 000 nouveaux cas par jour, plus 30% en une semaine. Un taux de reproduction lui aussi en hausse à 1,13, des niveaux de contamination qui augmentent dans l'Ouest, alors que cette partie de la France était plutôt épargnée jusqu'à présent. Des nouveaux cas qui se font forcément ressentir dans les hôpitaux, où le nombre de patients ne faiblit pas. Près de 25 000 lits sont occupés aujourd'hui par des patients Covid-19. C'est davantage que le 30 octobre, date de l'entrée en vigueur du deuxième confinement. Et l'une des préoccupations majeures du gouvernement, vous l'avez dit Patrick, c'est bien sûr le variant anglais qui circule certainement plus que les chiffres annoncés hier. 1000 cas sur tout le territoire. Des cas et des clusters émergent un peu partout. De nouveaux foyers de contamination, par exemple, ont été identifiés dans le sud, à Fréjus et à Biot. Et l'une des difficultés actuelles, c'est le manque de moyens pour séquencer les tests PCR et s'assurer qu'on est bien en présence de la souche anglaise. Les centres nationaux de référence sont totalement débordés ces derniers jours.
Victor Dolande, une éventuelle extension du couvre-feu à 18h et le maintien d'écoles ouvertes. Il y a un consensus assez général sur ce point, mais le gouvernement devrait ajouter de nouvelles précautions dans les établissements scolaires, Virginie Riva.
Écoutez, pour régler le problème numéro un, celui de la cantine, moment le plus à risque puisque les élèves enlèvent leur masque, la solution qui se dessine, c'est de distribuer des pique-niques en classe, pique-niques qui seront fournis par les établissements. Les distribuer permettrait de ne pas faire sortir les élèves de leur classe. Oui, mais les collectivités territoriales disent que pour cela, il faudra du personnel supplémentaire et qu'elles n'en ont pas les moyens. Elles affirment qu'elles ont déjà réduit les temps de repas en proposant des plats plus faciles à préparer et plus rapides à manger. Autre proposition à ce stade sur la table, l'interdiction du sport en gymnase, un moment où les élèves sont sans masque et parfois trop proches. Enfin, au collège et uniquement pour les classes de 4e et de 3e, le scénario d'un passage à l'enseignement hybride, c'est-à-dire moitié en présentiel, moitié à distance, se rapproche. C'est déjà le cas au lycée pour 7 lycées sur 10 sur toute la France et cette mesure va d'ailleurs être maintenue. Enfin, sur le volet sanitaire, le ministre de la Santé vient d'annoncer un protocole d'1 million de tests par mois à destination des profs et des élèves. Ça correspond à une nouvelle règle qui sera celle de tester systématiquement dès qu'il y a un cas positif dans un établissement. Les choses accélèrent donc car pour l'instant l'éducation nationale a réussi à ne déployer qu'un peu plus de 10 000 tests, soit très peu par rapport aux millions attendus fin janvier et annoncés déjà en novembre par Jean-Michel Blanquer.
Virginie Riva, pour la vaccination, le rythme quotidien a maintenant dépassé les 50 000, ce qui est à peu près la vitesse de marche de nos voisins allemands et italiens. Près de 250 000 vaccinés hier soir. Ce matin, Jean Castex s'est déplacé à Metz pour l'ouverture des inscriptions à la vaccination aux plus de 75 ans. Les rendez-vous peuvent être pris dès aujourd'hui pour se faire vacciner à partir de lundi, mais inutile de se précipiter, a dit en substance le Premier ministre.
J'ai moi-même, sans me présenter, pris un appel et fixé un rendez-vous. C'était une fille, une dame, pardon, qui appelait pour ses parents, les personnes âgées. Les choses se mettent en place. J'en profite pour dire qu'il faudra aussi être patient. parce qu'évidemment, ça va susciter un rush, c'est tout à fait normal. Les rendez-vous vont s'étaler, hein, c'est une très grosse opération inédite.
Jean Castex au micro Europe 1 de Jean-Rémy Bodo. À noter que la situation se dégrade partout en Europe. Le Portugal vient de se résoudre à un nouveau confinement généralisé à partir de demain. L'Espagne avertit sa population d'un risque extrême avec 39 000 nouveaux cas enregistrés hier. Et le Royaume-Uni a compté hier son pire bilan depuis le début de la pandémie. Plus de 1500 décès en une journée. Un mot encore de l'actualité à l'étranger. Au lendemain de la deuxième mise en accusation de Donald Trump, votée par 10 élus de son camp, 10 républicains, l'étonnante confession du fondateur et patron de Twitter. Jack Dorsey estime que la décision de bannir Trump de la plateforme était la bonne, mais il ne ressent aucune fierté à l'idée de l'avoir fait. C'est un échec et un précédent qui lui semble dangereux par rapport, dit-il, au pouvoir qu'un individu ou une entreprise possède sur une partie de la conversation publique mondiale.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, une crèche fermée par la mairie de Grenoble sous la menace de dealers et Renault qui se réinvente avec une R5, oui, mais une R5 électrique.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La mairie de Grenoble a donc fermé jusqu'à nouvel ordre une crèche du quartier populaire de la Villeneuve après que son personnel a été menacé par des dealers. Les employés ont exercé leur droit de retrait et la ville a fermé l'équipement. Décision qui interroge à Grenoble Jean-Luc Boujon.
Oui, parce que cela peut être interprété comme une victoire hein, des dealers qui avaient fait du local de la chaufferie près de la crèche leur point de deal au sein du quartier. En fait, ils n'ont pas apprécié d'en être délogés la semaine dernière par la police et donc ils sont revenus pour menacer les personnels de cette crèche qui accueille en temps normal 50 enfants, personnels qui ont donc exercé leur droit de retrait. Il faut dire que l'insécurité a beaucoup progressé dans ce quartier de la Villeneuve, estime Brice Gageant du syndicat SGP Unité Police.
On peut déplorer des incendies volontaires, des dégradations sur le secteur de la Villeneuve et sur les autres quartiers de Grenoble à longueur d'année. Il y a des gymnases qui ont été incendiés, un club de foot. Il y a beaucoup, beaucoup de faits similaires à longueur d'année. Le maire de Grenoble, en ce moment, on ne l'entend pas. On a déjà eu des débats avec lui par rapport à des faits qui sont passés il n'y a pas longtemps sur des quartiers de Grenoble. Et on voit bien que, visiblement, sa priorité, ça n'est pas la police, ça n'est pas la délinquance et ça n'est pas la sécurité de ses concitoyens. Il y a des choses qui pourraient être mises en place qui nous aideraient fortement. La vidéoprotection, on a beau dire, mais dans la résolution des enquêtes, pour les investigations, c'est une aide conséquente.
Mais pour l'instant, eh bien, cette vidéoprotection, il n'en est pas question. Alors la police a tout de même repris possession du quartier et le local de la chaufferie est en train d'être réaménagé afin qu'il ne puisse plus servir aux dealers. Et on nous parle désormais d'une réouverture possible de la crèche la semaine prochaine.
Jean-Luc Boujon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Un vaste trafic d'armes démantelé par la BRB, la Brigade de répression du banditisme, et parmi les suspects, deux soldats soupçonnés d'écouler leur stock, aussi bien auprès de voyous que de militants de l'ultra-droite, Chloé Triomphe.
Oui, c'est une affaire hors norme, indique une source proche de l'enquête, tant par son volume que par l'organisation de son réseau. En fait, c'est quasiment du jamais vu, au point que les armes se compteraient par centaines, voire par kilos, et le décompte est toujours en cours. En tout cas, le choix est vaste. Armes de poing, fusils d'assaut, munitions, poudre, tout était disponible à la vente et le réseau qui achetait et remilitarisait est soupçonné d'avoir irrigué toute la France, à commencer par la région parisienne. Quant au profil des personnes interpellées, une source judiciaire confirme que parmi elles se trouvent bien deux militaires en activité. Pour les autres, il s'agirait de militaires à la retraite, d'un emploi jeune de la police, de personnes gravitant dans le secteur de la sécurité, ainsi que de deux profils de l'ultra-droite, dont un fiché par les services de renseignement. Les policiers de la brigade de répression du banditisme travaillent depuis plusieurs mois sur ce réseau qui relève du crime organisé et qui fait l'objet d'une information judiciaire depuis le mois de juin.
Et Chloé Triomphe, la révolution du constructeur Renault présentée ce matin par son nouveau patron Luca De Meo a été baptisée Renault Lution. L'idée étant de produire moins mais mieux et ce retour vers le futur est incarné par une R5, oui, la voiture star des années 70, mais une R5 électrique, Aurélien Fleureau.
Oui, cette Renault 5 électrique, c'est le modèle qui a attiré tous les regards ce matin. Une citadine compacte, présentée avec un jaune plutôt flashy, présentée aussi avec un nouveau losange de Renault, une version modernisée. Elle sera sur le marché à partir de 2023 et elle est très symbolique de la démarche de Luca De Meo, du marketing en jouant sur un côté rétro, avec des références anciennes de Renault, et puis une organisation plus efficace avec de nouvelles voitures qui arrivent plus rapidement sur le marché, explique Arnaud Aimé, spécialiste automobile automobile au cabinet Sia Partners.
L'idée, c'est de pouvoir sortir un véhicule en 3 ans plutôt qu'en 5 ans. Donc, ça passe par de la simplification. Et typiquement, Luca Demeo est en train de réorganiser l'entreprise par marque. Une équipe Renault, une équipe Dacia, une équipe Alpine, une équipe sur les nouveaux services qu'on appelle Mobilize, pour être plus réactif, pour aller plus vite dans la sortie de nouveaux produits et services.
Et l'essentiel de ce plan stratégique d'ici 2025, c'est améliorer la rentabilité. 5% de marge gagnée par an, c'est l'objectif affiché. Vendre moins et vendre mieux, donc la fin de la course au volume. Et puis le plan d'économie sur les coûts fixes qui avait été annoncé l'an dernier, il passera de 2 à 3 milliards d'euros d'ici 2025.
Aurélien Fleurot, un mot de sport pour vous annoncer le début du championnat du monde de handball en Égypte. Les Français entament la compétition ce soir au Caire face à la Norvège. Le match à partir de 20h30. Le temps, Anissa Haddadi, un épisode neigeux important dans le nord-est.
Oui, avec 11 départements, Patrick, placés en vigilance orange, neige, verglas, de l'Aisne au territoire de Belfort, en passant par la Lorraine et l'Alsace. Dans ces départements, les températures sont plus froides cet après-midi que ce matin. Du coup, la neige arrive en force avec 7 à 15 cm de neige attendue cet après-midi, jusqu'à 20 cm dans le sud de l'Alsace, autour de 3 à 5 cm dans Strasbourg cet après-midi. Et puis attention, hein, cette info, dans la Meuse, pas de transport scolaire toute la journée à cause de ces chutes de neige. Le Pas-de-Calais vient de passer il y a quelques minutes en vigilance orange neige là aussi, donc du nord à l'Alsace, tout le monde est concerné. Sur le reste du pays, en altitude, des flocons des 1000 mètres, ailleurs c'est de la pluie pour tout le monde, sauf au bord de la Méditerranée où le temps est sec, ensoleillé, mais attention, avec des vents forts. Les températures, 3 degrés à Nancy, c'est froid, 4 à Lille, 9 pour Limoges, 11 à Paris et jusqu'à 14 degrés à Marseille.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Invité d'Europe Midi dans un instant en direct, Alain Duhamel pour son nouveau livre sur le phénomène Macron, Emmanuel Le Hardy.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Alain Duhamel.
Bonjour.
Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, vous parliez déjà d'un président anormal, en opposition à son prédécesseur, bien sûr, c'était votre chronique dans Libération. 3 ans et demi plus tard, vous tentez de comprendre et d'analyser le phénomène Macron dans un livre, comme chaque fois, nourri de références historiques et de comparaisons, d'où le surnom que vous lui affublez, comme jadis pour les rois de France, Emmanuel le Hardy. Mais vous confiez à la fin du livre que vous avez longtemps hésité avec Emmanuel le Téméraire. Pourquoi finalement plutôt Hardy que Téméraire ?
Parce que Téméraire, ça voulait dire que c'était perdu d'avance.
Téméraire, le Téméraire est plus imprudent.
Ah oui, et ça se termine mal. Bon, Hardy, c'est quelqu'un qui prend des risques et qui aime prendre des risques et qui est fait pour ça.
Oui, mais chez le Hardy, il y a aussi une part d'insolence et de provocation. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Non, bien sûr, c'est
La Fontaine.
Un hardi bouscule.
Ouais.
Et il provoque des réactions fortes à son propre sujet, pas simplement à propos de ce qu'il fait, mais à propos de ce qu'il est.
Alors, c'est justement l'une des clés de son rapport à l'opinion, sur lequel vous vous interrogez longuement. Emmanuel Macron, écrivez-vous, s'impose comme le plus grand déclencheur des passions politiques françaises de la Ve République. En clair, il est le président le plus détesté et chez ses partisans le plus admiré. Est-ce que, d'abord, êtes-vous certain que le rejet est plus fort que pour Giscard à la fin de son mandat chez les électeurs de gauche ou Mitterrand au début chez les électeurs de droite ?
Je pense que oui. Alors, comme vous l'avez lu, je m'interroge beaucoup, je soupèse, je compare. Je souligne évidemment que ses prédécesseurs ont eu des périodes de très forte contestation. Tous, hein, sans exception, sauf Georges Pompidou. Mais parce que à cause de sa disparition, de sa maladie, etc. Autour de lui, il s'est produit, notamment au moment des Gilets jaunes, des réactions d'une violence, à mes yeux, pourtant franchement j'ai bien comparé avec les autres, oui, sans précédent. D'abord, il y a quand même eu, je ne dis pas une tentative, mais une tentation de forcer le passage pour aller jusqu'à l'Élysée. Ça c'était sans précédent, hein, même en 68. Bon, et puis...
Une haine personnelle.
On sent que c'est pas simplement le président qui est contesté, mais c'est l'homme qui insupporte, horrifie même une partie des Français, une autre partie, au contraire, l'admire, lui donne raison et en fait une arme pour la France. Mais ces contradictions sont impressionnantes. Enfin, depuis quand est-ce qu'on n'avait pas vu des marionnettes et des mannequins indiquant la pendaison ou l'échafaud pour un président en exercice ?
Ou le bûcher. Vous passez en revue toutes les raisons qui peuvent expliquer ce phénomène, son arrogance, ses maladresses répétées, sa parole spontanée qui provoque souvent des catastrophes. Ouais, beaucoup de dégâts. Mais vous considérez que la césure majeure, c'est l'installation première ligne de l'information continue, impitoyable par principe, en perpétuelle fringale d'erreurs, de fautes, de dérapages, d'imprudence du personnel politique qui se retrouve exposé 24 heures sur 24 et contraint à l'auto-justification constante. C'est l'éditorialiste de BFM TV qui parle.
Alors,
Alain Duhamel.
Ce qui est frappant, c'est que l'information continue et les réseaux sociaux constituent ce que j'appelle un cinquième pouvoir qui, pour les personnages politiques, et en particulier pour ceux qui, par tempérament et par fonction, se mettent tout le temps au premier rang, sont exposés comme ne l'étaient pas leurs prédécesseurs. Et ça, pour le coup, c'est une grande différence, évidemment, en tout cas jusqu'à François Hollande. Mais être aujourd'hui président, c'est être en permanence scruté, foyé, presque déshabillé. Bon, et c'est une pression qui n'existait pas avant. Et avec des réactions sur les réseaux sociaux, les réactions sont très fortes.
Et qui est sans doute plus forte en France que chez nos voisins, où il y a aussi des réseaux sociaux, mais pas le même poids et pas le même nombre de chaînes d'information continue.
Et puis chez nos voisins, ce sont des régimes parlementaires. Donc, beaucoup moins personnalisés que le nôtre.
Oui. Et personnalisé, parfois, parce que c'est le choix des dirigeants, je pense notamment à Angela Merkel.
Bien sûr.
Emmanuel Macron, un bonapartisme du 20e siècle.
Du
21e, pardon. On a changé de siècle. Duhamel. Vous pensez là aussi, en comparaison de ses prédécesseurs, qu'aucun autre président n'aura concentré autant de pouvoir entre ses mains?
Oui, ça, je crois qu'il y a une concentration du pouvoir. Alors, qui s'explique en partie par le Covid en ce moment, évidemment, mais qui existait depuis qu'il est entré à l'Élysée. Je crois, alors d'une part, on le sait très bien, le rôle des partis s'est affaibli, presque effondré, le rôle des syndicats recule, leur influence recule, celle des élus locaux est importante, mais a été snobée au début et a du mal à se reconstituer maintenant. Bref, il n'y a plus de corps intermédiaire. Il y a en fait un corps à corps entre le président et l'opinion. C'est pour ça que j'insiste sur l'influence et de l'information continue et a fortiori des réseaux sociaux. C'est que c'est vraiment un duel ou une rencontre ou en tout cas un débat entre les Français en permanence, et le président, et ce président ne l'a pas esquivé, il l'a d'une certaine façon voulu. Et si je dis bonapartisme, c'est parce qu'il y a l'autorité, voire l'autoritarisme, c'est parce qu'il y a la volonté de rupture, c'est parce qu'il y a la volonté d'incarnation. Alors l'incarnation chez lui, elle est spéciale parce que je trouve qu'il n'y a pas tellement de charisme, mais qu'il y a en revanche une vraie incarnation.
Oui.
Ça n'est pas la même chose. Et puis la concentration des pouvoirs. Enfin, d'ailleurs, on voit bien, les conseils de défense, par exemple, sont le lieu de la décision. En ce qui concerne aujourd'hui le Covid, on voit bien aussi, et ça m'a moi beaucoup frappé, parce que comme vous le disiez, j'aime énormément l'histoire, la façon dont il prend la gestion des rapports avec les religions, c'est du bonapartisme. C'est exactement la logique du premier consul à l'époque où on a mis sur pied des rapports différents de la monarchie entre les religions et le pouvoir politique.
Et la façon dont Napoléon s'est occupé de la religion juive et de son organisation.
Bien entendu.
Mais alors oui, la démocratie présidentielle face à la démocratie d'opinion, écrivez-vous dans votre livre. Sur la concentration des pouvoirs, vous pensez vraiment que ça s'est aggravé? Vous trouvez par exemple que Nicolas Sarkozy déléguait beaucoup à ceux qu'il considérait comme ses collaborateurs?
Je ne dirais pas forcément que ça s'est aggravé, mais que ça s'est accentué.
Bon.
Mais oui, ça s'est accentué. Oui, alors je sais bien que sous Nicolas Sarkozy, déjà, le Premier ministre avait un rôle effacé. Mais aujourd'hui, un Premier ministre, c'est vraiment un chef d'état-major. Ça n'est pas un deuxième pouvoir. Et on voit plus que jamais, mais je crois que la logique va plus loin encore que d'habitude. La Ve République, c'est la primauté de l'exécutif sur le législatif et au sein de l'exécutif, la primauté du président sur le Premier ministre. C'est pour ça que moi, je suis partisan qu'on aille jusqu'au bout de cette logique, puisqu'elle existe. Et si on veut renforcer les contre-pouvoirs, je considère que c'est démocratiquement indispensable en ce moment, il faut un régime présidentiel, parce qu'on sait très bien qu'avec un régime présidentiel, le Parlement, et en particulier l'Assemblée nationale, retrouve un rôle très accru.
À l'américaine, en quelque sorte,
oui.
qui est le modèle du régime présidentiel avec un Parlement
la référence,
qui contrôle.
Sinon le modèle.
La référence. Le point fort de l'action d'Emmanuel Macron, dites-vous, c'est son œuvre, son action européenne. En 3 mois, à la faveur de la crise sanitaire, l'Europe s'est littéralement réinventée, ce qui n'existe nulle part ailleurs, sur aucun autre continent. Mais Alain Duhamel, ça c'est ce que vous écrivez, mais on ne peut pas dire que ces grands changements ont été clairement perçus dans l'opinion.
Ah mais c'est le problème permanent des rapports entre le citoyen et l'Europe. L'Europe n'est pas dans l'univers des citoyens français. Elle a été dans l'univers de citoyens d'autres pays à certains moments, mais des Français, non. Et je pense que ce qui a été fait quand le Covid s'est déclaré, c'était inimaginable avant, c'est essentiel parce que les transformations que ça annonce et que ça met déjà en partie en œuvre, bah tout le financement de la crise économique et sociale, ça passe par cette énorme avancée européenne. Que c'est Emmanuel Macron qui a joué le rôle vraiment moteur en Europe dans cette affaire, notamment en finissant par convaincre Angela Merkel qui était réticente. Mais j'ajoute que ça ne lui rapportera rien sur le plan électoral.
Dernière question, Alain Duhamel. Emmanuel Macron, parmi tous les présidents de la Ve République que vous avez observé et côtoyé, est sûrement le plus lointain à vos yeux. On sait qu'il ne se confie que très peu ou très rarement aux observateurs, aux éditorialistes. Est-ce que ça vous manque ?
Oh, écoutez, non, pas vraiment. Parce que à l'observer, alors évidemment, moi, avec ses prédécesseurs, j'avais un dialogue. Bon, je ne peux pas dire que j'ai vraiment un dialogue, même je ne le dis pas du tout. Bon, peut-être que c'est mieux pour écrire le livre que j'ai écrit.
Eh bien, parfait. Emmanuel Le Hardy. Merci beaucoup, Alain Duhamel.
Merci.
Emmanuel Le Hardy aux éditions de l'Observatoire.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Le 13h d'Élise Dangean dans un instant, puis La France bouge. Bonne journée.